Bonjour à toutes et à tous. Circonstances exceptionnelles, rencontre du Forum Urbain exceptionnel. Pour la première fois, nous expérimentons une rencontre via les réseaux sociaux et notamment via la plateforme Facebook Live. Alors pour cette première, nous sommes accueillis par la station Ozone de la librairie Mola, que nous remercions au passage. Et nous accueillons un compagnon de route historique du Forum Urbain, en la personne de Jean-Marc Hoffner. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Marc Hoffner est directeur de l'AURBA, l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine, et il vient de publier un petit ouvrage qui s'appelle « Anachronisme urbain », sorti juste avant le grand confinement, aux presses de Sciences Po. Alors, dans cet ouvrage, dont je précise qu'il est très accessible, donc ça va vite devenir une lecture obligatoire pour tous les étudiants en urbanisme, en politique urbaine, Jean-Marc Hoffner s'attaque à un certain nombre de vérités tenues pour acquises, selon lui, dans les mondes professionnels des politiques urbaines et de l'aménagement du territoire. Ces vérités tenues pour acquises, eh bien, ces professionnels de la profession en seraient devenus prisonniers. Alors, ces vérités, sinon fausses, au moins hautement contestables, s'enracinent dans des habitudes de pensée, des manières routinisées de formuler les problèmes et les enjeux. Ces habitudes, routines intellectuelles, sont à l'origine, je cite Jean-Marc Hoffner, de myopie, strabisme et autres altérations optiques qui transforment peu à peu des raisonnements datés en dogmes intangibles. Alors l'ambition de cet ouvrage, c'est de proposer aux acteurs qui font et gouvernent la ville de changer de lunettes, dont l'expression que Jean-Marc Hoffner affectionne, de s'armer d'une lecture alternative d'enjeux brûlants qui concernent la ville, les territoires, les métropoles. Alors, parmi ces enjeux brûlants qui agitent les professionnels de l'urbain et au-delà, Jean-Marc Hoffner en a sélectionné 7. Les mobilités, le logement, le périurbain, la mixité sociale, notamment la mixité résidentielle, la proximité, le dogme du périmètre pertinent en matière de gouvernance des métropoles, et enfin la place des architectes et des concepteurs dans la ville et sa fabrication. Alors, sur chacun de ces thèmes, Jean-Marc Hoffner pratique un art qui lui est cher, l'art du contre-pied, être là où l'on n'attendrait pas forcément un urbaniste comme Jean-Marc. Alors, Jean-Marc Hoffner, nous n'avons pas passé en revue les 7 thèmes ce soir, ce serait trop long et fastidieux, et je renvoie ceux qui nous regardent à la lecture de cet ouvrage stimulant. Je préfère vous entendre sur ceux que peut-être la situation actuelle de pandémie, de confinement, rende les plus saillants. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par la question des mobilités. Vous êtes au départ un spécialiste des questions de mobilité, de ce qu'on appelait avant les déplacements, les transports. À l'approche de la fin du confinement, on a vu un certain nombre de grandes villes s'adonner à ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. L'idée, c'était de profiter de ce moment particulier qu'est le confinement et la sortie du confinement pour faire un peu plus de place au mode dit actif, le vélo et la marche essentiellement, avec cette conviction que ces modes seraient par nature plus vertueux. Bon. Alors, vous-même, vous semblez avoir un peu de mal avec cette idée que certains modes de déplacement seraient plus vertueux que d'autres. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
Alors, effectivement, je crois qu'on a tendance, et vous le disiez, en rappelant qu'avant, on parlait transport, déplacement. Maintenant, le mot mobilité a un peu phagocyté tout ce champ de réflexion et d'intervention. Et c'est un peu embêtant, parce que la mobilité, c'est justement autre chose. Elle ne se réduit pas à un mode de transport. La mobilité, pour faire un peu savant, c'est la réalisation d'un programme d'activité dans le temps et dans l'espace. Et ce dont le confinement nous oblige à revoir, c'est bien la mobilité. C'est ce qu'on fait chez soi, ce qu'on fait ailleurs, le moment où on le fait, puisqu'on veut réduire les pointes de trafic. Et là, on est bien effectivement dans une réflexion qui pourrait être globale. Mais cette réflexion globale, elle a trop tendance, à mon avis, à se focaliser justement sur la question, je dirais presque technique, des transports et de ses moyens. Et c'est un débat difficile à mener parce que, justement, les transports et les véhicules de transport sont des totems idéologiques. Un vieux communiste ne peut qu'être pour le ferroviaire. Le vélo était un emblème écologiste. Il s'est beaucoup diffusé dans toutes les idéologies politiques présentes, mais il reste quand même la marque, et on l'a beaucoup vu dans les premiers tours des municipales, d'un engagement pour le vert. Pour autant, effectivement, je pense que même en restant dans l'aspect un peu technique, technico-économique des choses, il n'y a pas de vertu première intrinsèque à chaque mode. Il y a un exemple qui est intéressant et parlant, le RER ou le TER, puisque nous nous adressons surtout à des Bordelais, des Girondins, des Aquitains. Le TER, 4 personnes dans un TER, ça n'a pas grande vertu. Ça dépense beaucoup d'argent, bien sûr, mais aussi beaucoup d'énergie. Et des TER avec 4 personnes, il y en a. 4 personnes dans un car tranche Gironde, et il y en a aussi, parfois, que 4. Ça coûte également cher, mais c'est un peu mieux, on va dire, en termes d'empreinte écologique. Mais ces 4 mêmes personnes dans une voiture collectivisée, collective, ben là, c'est plus vertueux. Et on peut multiplier les exemples comme ça. Alors, le vélo, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur le vélo, parce que beaucoup, beaucoup d'ennemis peuvent vous attendre à la porte là-dessus. Le vélo a 1000 vertus, mais il a quelques défauts. Il a le défaut, par exemple, de prendre un peu de place. Il prend plus de place qu'un piéton. Il prend plus de place, plus de mètres carrés de voirie qu'un usager des transports collectifs en période ordinaire. Il y a des tas d'endroits, en particulier les villes les plus denses, où la place coûte cher et où le ticket gagnant, si je puis dire, là, sera plutôt la marche et le transport collectif. Là encore, en mode ordinaire de fonctionnement. Et puis le vélo, il est souvent le concurrent du transport collectif parce que c'est un peu la même clientèle. Et donc, il faut faire attention à ne pas avoir de politique publique de promotion au même endroit et au même moment du vélo et du transport collectif. Donc effectivement, je pense qu'il faut, je dirais, remonter d'un cran dans la réflexion globale et sortir de ces débats un peu terribles, parce que justement, trop idéologisés entre des modes de transport qui, grosso modo, sans faire dans l'œcuménisme, ont tous à un moment ou à un autre, dans des territoires spécifiques, avec des usages particuliers, leur pertinence.
Et alors, vous disiez que vous alliez être attendu à la sortie du bois en utilisant le vélo. Est-ce que ces constats vous amènent à réhabiliter l'automobile, la voiture particulière, comme on dit dans les nomenclatures de modes de transport?
Alors, la voiture, elle n'a pas besoin d'être réhabilitée. Elle est là. Elle est omniprésente. Elle est omniprésente. Dès qu'on oublie le Paris intramuros et les centres-villes de quelques grandes agglomérations françaises, c'est la voiture. C'est la voiture qui domine très largement, quelle que soit la manière dont on mesure les déplacements. Si on regarde les taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre d'équipes de ménages qui sont équipés d'une voiture, ce taux augmente régulièrement et continue à augmenter. Si on regarde les kilomètres parcourus, là encore, il y a eu peut-être un semblant de stabilité, on va dire, durant les années 2000, et c'est reparti. Et cela s'explique tout à fait, parce que notre urbanisme à la française, pour le meilleur et pour le pire, a fait que énormément de territoires sont extrêmement difficiles à faire fonctionner dans leur mode de déplacement autrement que par la voiture. Donc, il n'y a pas à être pour ou contre. Il y a à considérer qu'elle est là, qu'elle est omniprésente, que le monde des transports a tendance à oublier cette donnée de base, parce que le monde des transports est très formaté par les dispositifs liés au transport collectif. Et donc, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que les vrais problèmes liés à l'omniprésence de la voiture sont à trouver dans l'évolution du système automobile. Et pour faire un peu concis, je dis qu'il faut passer d'une voiture individuelle et privée à une automobile plus collective et plus publique. Plus collective parce que partagée de mille manières, et plus publique parce que régulée dans ses usages. Voilà. Et je pense que c'est là, massivement, quantitativement, qu'il y a le plus de marge de manœuvre pour faire évoluer le système de déplacement.
Et alors, dans votre ouvrage, alors notamment sur ce chapitre sur la mobilité, vous avez une remarque très intéressante qui consiste à dire dans ce monde des mobilités, de la gestion du transport, on est trop parti de l'offre, une espèce de fétichisme de l'offre. On mettait l'accent sur les fétiches du petit train, notamment. Et vous en appelez une espèce d'abandon, cette espèce de vision un peu fétichiste et puis moraliste. Et avec cette idée qu'il faut repartir de la demande, s'adapter à une forme de demande. Mais là, est-ce qu'on ne peut pas vous rétorquer sur ces questions de demande de mobilité? C'est un peu comme les questions qu'on avait envie de poser aux gens de TF1 dans les années 80. On disait, nous, on donne aux gens ce qu'ils demandent. Est-ce que finalement, pour revenir directement au but, est-ce que la demande, elle ne se fabrique pas justement par des choix politiques? Alors effectivement, ça implique aussi d'avoir un discours moraliste consistant à condamner moralement la voiture et à valoriser moralement le vélo. Est-ce que le politique, qu'à certains moments, vous semblez vouloir réhabiliter, c'est pas aussi avoir cette activité de distribution de bons points moraux à ceux qui ont des pratiques de mobilité vertueuse et d'autres qui ont des pratiques de mobilité moins vertueuse? Est-ce que le boulot du politique, c'est pas justement de structurer la demande et non pas uniquement de la prendre en compte telle qu'elle est?
Alors, le nœud du politique, c'est d'abord de tenter de hiérarchiser d'une certaine manière ou d'articuler les politiques entre elles. On peut considérer que finalement, la politique des transports n'est qu'un vague sous-produit de politique industrielle. On le voit, c'est très intéressant sur Renault aujourd'hui. Il faut sauver Renault. Mais d'un autre côté, des tas de politiques considèrent que l'avenir de la voiture est peut-être décarboné, mais peut-être moins de voitures, etc. Donc les politiques urbaines, au sens large du terme, sont très souvent surdéterminées par des politiques considérées comme plus globales, plus importantes, etc. Alors, sur la demande, une façon de répondre à cette question pernicieuse, c'est de rappeler que on peut être, entre guillemets, même si le mot est un peu galvaudé, acteur de son système de déplacement. Mm-hmm. Pas seulement en choisissant quand on a le choix, mm-hmm. mais aussi, et je pense à tout le monde du travail, qu'il s'agisse des entrepreneurs et aussi et surtout des salariés, considérer que la question des déplacements fait partie de la question du travail. Et on le voit ici, et c'est un peu dommage, par exemple, que les entreprises se sont peu mobilisées dans ces situations de confinement ou de déconfinement pour repenser, par exemple, la grande question des rythmes urbains. Des rythmes urbains, des horaires de travail, etc., qui sont une façon de jouer sur la demande, de réguler la demande, en gardant, grosso modo, le même système de déplacement. Mm-hmm. Voilà. Quant à la morale, elle est effectivement très forte en matière urbaine. Il y a les bons et les méchants, il y a les gentils cyclistes et les mauvais automobilistes, qui ne sont souvent que des automobilistes contraints. Même si on sait par ailleurs que des changements de comportement peuvent s'effectuer si on donne plus d'informations, si on permet les apprentissages, toutes les crises sont très propices aux apprentissages. On voit aussi beaucoup de morale dans l'affaire du périurbain, sur laquelle on reviendra forcément à un moment ou à un autre, parce que derrière tout urbaniste frémit toujours un utopiste qui voudrait que le monde fonctionne comme il aurait envie qu'il fonctionne pour lui-même, et que c'est évidemment un peu difficile d'avoir une vision trop totalitaire des territoires et de la ville.
Effectivement, beaucoup d'urbanistes se pensent comme des missionnaires. Justement, il y a un autre thème brûlant d'actualité sur lequel vous revenez, c'est celui de la densité. Un chapitre y est consacré, où notamment vous revenez sur la question du périurbain. Alors vous l'expliquez très bien, si vraiment il y a un dogme que partagent ces ecclésiastes que sont les urbanistes, c'est celui selon lequel la ville dense, elle est par excellence vertueuse, bonne pour le lien social, bonne pour l'environnement, bonne pour rentabiliser les transports en commun, on vient de l'indiquer. Alors le problème, c'est que ce dogme, il est finalement très très peu partagé par nos contemporains qui préfèrent l'accès au vert, l'accès à de grands espaces, que leur garantirait notamment l'habitat périurbain. Et ça, on sait par ailleurs que ce terme recouvre des situations territoriales très variables. Et puis finalement, on a vu avec la pandémie du coronavirus et le confinement et l'exil des Parisiens que voilà, finalement, ce désamour des Français et de la densité, de la ville dense, est patent. Bon. Alors, comment on peut expliquer ce décalage entre ce catéchisme urbaniste qui prône la densité et le fait que, finalement, très peu veulent la pratiquer?
Alors, je pense qu'on peut trouver une grille d'analyse intéressante autour de cette variable d'actualité, c'est la distance. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans la proximité? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre à distance? Et d'autres avant moi ont parlé du périurbain en ces termes, en disant le périurbain, finalement, c'est le bon compromis parce que on est loin de la ville, sachant que les Français que sont quand même effectivement pas très urbanophiles hein, dans toute leur histoire. On est loin de la ville, mais on peut y accéder. On n'est pas loin de la nature ou d'une nature un peu fantasmée, en tout cas, on va dire du vert, hein, même si ce vert peut être un peu dégradé par des pratiques agricoles parfois. Et puis, par rapport aux voisins, eh ben, on peut trouver un ajustement des distances. On sait qu'ils sont pas loin, mais ils sont pas trop gênants non plus. Et la grande ville, dès lors qu'on n'a que la grande ville comme territoire à occuper, voilà, elle raccourcit les distances, elle comble les écarts, et le voisin devient un gêneur. Le passant dans la rue, cosmopolitisme éclairé ou pas, peut devenir aussi quelqu'un qu'on n'a pas envie de croiser. Et tout peut se jouer là dans un rapport qui peut être un rapport assez personnel à l'altérité. Donc, moi, ce que je mets en avant d'une façon générale, c'est effectivement l'idée qu'il faut sortir d'une espèce de d'urbanisme de catalogue, si je puis dire, hein, et on le voit avec toutes les analyses qui fleurissent sur l'après-pandémie, certains défendant la ville dense et seulement la ville dense pour épargner les campagnes, d'autres considérant que le périurbain est une façon de vivre effectivement à nouveau frais le rapport à la nature, télétravail aidant, d'autres considérant que la ville moyenne peut être une espèce de compromis. Et je crois qu'effectivement, chacun peut faire et pourra faire d'autant mieux son compromis, qui est un compromis relativement personnel, alors qui est culturel, qui peut être familial, qui peut être lié à un cycle de vie, bien évidemment. Hein, les étudiants aiment bien la ville dense. Hein. Et puis au bout d'un moment, il y a une espèce de parcours résidentiel type qui fait qu'ensuite, on va aller chercher un peu d'espace et un peu de nature plus loin. Mais la diversité de l'offre urbaine et territoriale me semble beaucoup plus importante que la promotion d'un modèle spécifique. Et en matière de densité, c'est d'autant plus important de considérer que la densité est un mal en soi. C'est un modèle qui a ses vertus jusqu'à un certain point, parce qu'y compris d'un point de vue, je dirais, économique, on montre que les villes très, très, très grandes et très denses deviennent contre-productives et qu'il y a, d'une certaine manière, une densité moyenne intéressante. Hein. Mais il faut effectivement se sortir de ce mot d'ordre et le contextualiser. Hein, le contextualiser. J'ai du mal à comprendre que des voix aient pu un jour dire qu'il fallait densifier Paris intramuros, alors que c'est un des territoires les plus denses du monde et que la question ne se pose évidemment pas à cette échelle, mais éventuellement à l'échelle du Grand Paris.
Mais alors, comment aujourd'hui peut-on défendre la grande ville dense et intense? Alors, on a bien senti dans votre discours, là aussi, une volonté de dépasser des oppositions un peu stériles. Et en même temps, on sent bien qu'aujourd'hui, ce qui domine dans le débat public et intellectuel, c'est une espèce de désamour pour la grande ville, pour la métropole. Mmh. Alors, les rencontres du Forum urbain s'en sont fait l'écho, entre Nicolas Boulba-Olga, relativise la performance économique des grandes villes et des métropoles, et dans un registre très différent, Guillaume Faburel qui parle de métropole barbare, en gros, qui ne voit dans la grande ville que des mécanismes d'aliénation. Comment, aujourd'hui, est-ce qu'on peut défendre la grande ville dense et intense? Quels sont ses avantages, quelles sont ses vertus pour l'urbaniste que vous êtes et l'amoureux des villes que vous êtes?
Alors, si j'étais un libéral dans l'âme, je dirais que de toute façon, le marché s'en charge. Hein, le marché s'en charge, puisque les prix montent et vont probablement continuer à augmenter tranquillement, parce qu'il y a une demande, malgré tout, pour cette ville dense. Il y a une demande, effectivement, d'un certain type de population, qui n'est pas forcément simplement une population riche et aisée qui a sa résidence secondaire pour assouvir son besoin d'espace supplémentaire, mais qui est une population qui, par son âge, hein, donc je reparle des étudiants, par ses pratiques professionnelles, besoin d'interaction, des visus, etc., toutes les nouvelles professions dont on parle et qui s'accommodent mal lorsqu'elles sont du côté du créatif, de la télé, quelque chose à tout bout de champ. Là, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande qui sera d'autant plus stabilisée, je pense que c'est important, que l'on retrouvera, parce qu'on sait le faire, on a su le faire, qu'on retrouvera en tant qu'urbaniste les moyens de produire ou de transformer des villes et des grandes villes qui soient à la fois intenses, mais qui permettent aussi de trouver à certains moments, dans certains lieux, de l'intimité, du silence, du calme et de l'apaisement. Là encore, je crois qu'on est trop dans une dualité ville bruyante, intense, congestionnée versus ville apaisée, un peu tristounette, trop sécure, en penchant vers le néo-hygiénisme, etc. Je crois que c'est pas très compliqué de faire les deux. C'est pas très compliqué, même si les maires peuvent avoir tendance à considérer que non, on n'y arrive pas, de faire, surtout dans la métropole bordelaise où il y a de la place, hein, de faire à la fois plus de bâti et plus de nature, hein, de remembrer des territoires qui sont un peu chaotiques, un peu mal fichus, et donc d'avoir la double proposition. On peut pas le faire partout. Je pense vraiment qu'on peut le faire dans beaucoup de communes de la, on va dire, de la grande région bordelaise. Et puis on ne joue pas assez. C'est une vieille affaire sur les rythmes, sur les temporalités, sur les agences des temps, les bureaux des temps, qui permettent qu'à un moment, la place des Quinconces, pour les non-bordelais, une grande place au centre de Bordeaux, un espace très souvent vide, très tranquille, très calme, très apaisé. On pourrait parler aussi de l'esplanade Charles de Gaulle à Mériadec, hein. Pas grand monde là, hein. Un espace très très calme, très clos. On est au centre de Bordeaux. Donc ce type d'espace peut à la fois être à certains moments très 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 intense, très animé, bruyant, dans la promiscuité éventuellement, et à d'autres moments au contraire très très calme. Le paramètre temps est encore mal appréhendé par les urbanistes.
Alors, troisième dogme que j'aimerais aborder avec vous et auquel donc vous vous attaquez, et ça de manière assez audacieuse, parce que là on peut vraiment considérer qu'il s'agit d'une valeur indiscutable, c'est celle de la mixité, notamment de la mixité résidentielle. Alors, comment on peut être contre la mixité dans la ville, Jean-Marc Hoffner?
Alors, effectivement, c'est pire que le vélo, là. Hein, c'est le réactionnaire complet. Là où il faut, où je fais, moi, une rupture de concept fort, c'est mixité résidentielle versus mixité sociale. Donc, moi, je suis, je dirais évidemment comme tout le monde, même si ça mériterait d'approfondir la question, pour ce fameux vivre ensemble, pour reprendre l'expression consacrée. Ce que je mets en cause, c'est que le vivre ensemble passerait prioritairement par l'habiter ensemble. Voilà. Et donc, je défends l'idée que la mixité sociale doit passer par beaucoup de moyens, la mixité dans l'espace public, la mixité au travail, la mixité dans les loisirs, mais pas, probablement pas, et pas d'abord en tout cas, par la mixité résidentielle. Et ce qui est très étonnant, parce que voilà, dans mes 7 dogmes, il y a des thèmes que je connaissais plus ou moins bien avant d'avoir l'envie de faire ce livre. Je connaissais moins directement ces questions de mixité. Et j'étais très étonné de voir que la littérature académique, les sociologues de France et d'ailleurs, consensuellement, sont d'accord avec moi. Et c'est le moment de citer cet article célèbre de Jean Bourédon, qui est disparu récemment. C'était un disciple de Bourdieu en 1970. Il fait ses enquêtes en 68. Proximité spatiale, distance sociale. Et il explique très bien que faire cohabiter des gens, on va dire différents, ne fabrique pas d'interaction entre eux. Au contraire, il réduit les interactions. Et donc, je crois que cette question, cette ambition qui est dans la loi maintenant, hein, depuis 1996, il y a eu la loi Égalité-Citoyenneté, qui explicitement disait promouvoir la mixité sociale par la mixité résidentielle. Je crois que c'est une mauvaise idée. Alors, c'est une mauvaise idée d'abord parce que l'ambition n'aboutit pas. Globalement, ça ne marche pas. Hein. La fragmentation sociale, encore faut-il la mesurer, savoir à quelle échelle on la mesure, etc., est plutôt là. Ensuite, parce que, in fine, sans être dans le cerveau des gens, chacun ayant des contraintes économiques, culturelles, etc., grosso modo, tout un chacun aime plutôt habiter à côté de gens qui lui ressemblent, hein. Même si parfois le spectacle de l'autre, et on peut parler de la gentrification là-dessus, peut être vu comme quelque chose de positif, mais entre regarder l'autre vivre sa vie quotidienne et être en interaction avec lui, il y a des différences. C'est bien l'interaction qui compte, hein. c'est pas la coprésence, c'est l'interaction. Et puis donc, je pense que c'est effectivement non pertinent et donc même contre-productif. Alors, je sais que c'est dur à avaler, si je puis dire. Hein. Et puis, il y a la fameuse loi SRU qui a la qualité exceptionnelle, et là, ça a marché, de produire du logement social. Hein. Mais le fameux ratio de 25% de logements par commune, qui fait office également, au-delà de la question du logement social, de fabrication de la mixité résidentielle, a, me semble-t-il, un peu brouillé les cartes et a permis de se défausser facilement, finalement, d'une grande et vraie question, le vivre ensemble dans la ville, au-delà de cette mixité résidentielle.
Alors, vous évoquez le vivre ensemble et vous dites que cet objectif-là n'est pas un objectif que vous abandonneriez. Alors justement, si on considère que le vivre ensemble, même si la notion est éminemment floue, est importante, comment est-ce que les politiques urbaines, à leur niveau, les collectivités locales, les métropoles, peuvent contribuer à ce vivre ensemble, si ce n'est pas par la mixité résidentielle?
Alors, il y a quelques grandes institutions qui ne sont plus là et qui aidaient bien à cette ambition. L'Église, l'armée pour les garçons, le Parti communiste, les colonies de vacances, etc., etc., qui étaient grosso modo de vrais creusets quand même, sinon de mixité, du moins d'un brassage social événementiel qui pouvait en partie perdurer. Un vecteur très important qui n'est pas de l'ordre de la politique urbaine, mais de la politique spatiale, on pourrait dire, c'est l'école. Bon, j'aborde le sujet rapidement parce que c'est pas le cœur de ce qui me préoccupe et des leviers que j'ai en main en tant qu'urbaniste. Hein. On interrogera François Dubé là-dessus, notre sociologue bordelais, sur la question. Mais c'est évidemment majeur. Et les questions de savoir, non pas seulement où on met l'école, mais qui va à tel endroit, à telle école, est important. Je fais allusion aux vieilles politiques nord-américaines du busing, qui consistait à prendre des écoliers de quartiers défavorisés pour les mettre dans d'autres écoles. Là encore, ça paraît un peu étonnant de devoir sortir de son quartier pour trouver autre chose. C'est pas forcément inintéressant, à mon avis, dans certaines situations. À Paris, il y a des cartes scolaires plus élargies qui permettent de brasser effectivement dans des collèges. C'est un sujet majeur. Plus professionnellement, je crois que la question de l'espace public peut jouer un rôle considérable et qu'il faut veiller à des dérives qui peuvent être ennuyeuses de ce point de vue-là. L'espace public, c'est idéalement le lieu justement où l'on croise l'autre. Alors, on le croise rapidement, ce sont les liens faibles, hein, comme disent les sociologues, mais c'est déjà une façon de voir l'autre, d'en prendre connaissance, de comprendre comment il fonctionne, de savoir qu'il est là. Et je trouve que c'est important.
Le transport collectif joue le même rôle.
Le transport collectif qui a amené des populations variées au centre commercial de Mériadec. Et c'est très bien comme ça. On a souvent dit aussi, un peu en rigolant, mais pas seulement, que le miroir d'eau était aussi un des hauts lieux de la mixité, puisque c'était non seulement tout Bordeaux, mais aussi tous les touristes, tous les gens des communes périphériques qui s'y retrouvaient. L'espace public doit garder cette fonction de lieu potentiellement accessible pour tout le monde, en termes de classe sociale, mais en termes aussi de génération, de côtoiement entre les habitants et les passants, etc. On pourrait considérer qu'il y a en ce moment une certaine dérive, sinon de privatisation, ça existe, hein, mais en tout cas de focalisation sur un petit nombre d'usages. On crée, les urbanistes, on crée un espace pour se promener, on crée un espace ou une rue qui sera un peu une galerie commerciale à ciel ouvert. Et donc, on s'empêche de diversifier les usages. Et d'une certaine façon, on interdit symboliquement l'accès à ces espaces parce qu'ils sont trop connotés par rapport à un usage et une pratique spécifique. Je pense que c'est dangereux. Et donc, il faut effectivement veiller à ce que les espaces publics qu'on produit, et on en produit beaucoup aujourd'hui, parce que c'est un peu la marque de fabrique aussi du projet urbain à la française, que ça ne soit pas que des espaces exceptionnels, que ça soit aussi les espaces du quotidien, et que tous ces espaces puissent être facilement appropriés par tout le monde, que personne ne s'y sente interdit.
Alors, j'en reviens sur cette question de la mixité et de la loi SRU, renouvelée par la loi Égalité et Citoyenneté, sur la question des 20 puis 25% de logements sociaux dans des communes au-delà d'un seuil de population. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette loi et ses objectifs motivés par la lutte contre la ségrégation résidentielle et par le désir de créer une mixité résidentielle ont aussi servi d'instrument pour, sinon, contrer, au moins modérer la gentrification. Première question. Et autre question, est-ce que les objectifs de mixité résidentielle ne sont pas aussi des outils de péréquation fiscale? La question est peut-être un peu technique, mais c'est quand même là aussi l'enjeu. Hein, ces lois ont été aussi votées au moment où on considérait que les problèmes dans les banlieues étaient très liés à l'égoïsme des banlieues riches qui laissaient peu de ressources fiscales aux communes pauvres. Donc est-ce que ces outils de mixité, alors qui sont peut-être fondés sur des postulats discutables, n'ont pas quand même pour effet de laisser une place aux catégories populaires dans les villes, notamment les espaces les plus convoités, mais aussi d'organiser une forme de redistribution fiscale entre les communes?
Oui, sauf que la redistribution fiscale, c'est un moyen quand même un peu détourné. Mm-hmm. Hein, depuis le temps qu'on rêve au grand soir de la réforme de la fiscalité locale, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres moyens d'y parvenir. Peut-être que le périmètre communal n'est pas le meilleur pour fixer ces objectifs. Là encore, c'est quelque chose qu'il faut regarder de manière assez fine. Je pense que les associations type Abbé Pierre, Secours catholique, etc., réfléchissent bien sur ces questions. C'est pas forcément entre guillemets rendre service à certaines populations défavorisées que de fragmenter trop leur localisation. On l'a bien vu sur la politique de la ville, où finalement on arrivait à faire disparaître même parfois des solidarités de voisinage qui faisaient que des fonctionnements de quartier pouvaient subsister de façon à peu près satisfaisante. Là encore, la question de l'échelle, est-ce que ça se passe à Lillo, façon les bonnes espagnoles dans leur chambre dans le 16e arrondissement, à Lillo, au quartier. On le voit aussi, on voit des choses intéressantes sur ce qu'on a fait à Bordeaux autour de Ginko, sur la relation entre Ginko et le quartier des Aubiers. Voilà, tout ça passe beaucoup aussi par des questions ensuite de gestion urbaine, de fonctionnement au quotidien, qui sont trop souvent le parent pauvre de l'urbanisme, qui aime bien construire. Voilà, c'est un peu aussi la question. On a fait les logements sociaux, on a fait le travail. Et puis on ne s'occupe plus de la suite.
Alors, quand on vous lit, Jean-Marc Hoffner, il vient quand même une impression. Alors, vous avez tout à l'heure terminé en disant que ce qui pouvait commencer à poser problème en France, et notamment pour régler ces problèmes ou pour maintenir un minimum de mixité sociale, c'était l'espace public, de plus en plus réduit à des usages très particuliers, de plus en plus lié à la consommation, etc. Quand on vous lit, on vous dit, mais bon, le périurbain, c'est pas tellement un problème. Le poids de la voiture, c'est pas forcément un problème, si la voiture est bien utilisée. Et on se demande, mais alors pour Jean-Marc Hoffner, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui dans la ville d'aujourd'hui? Alors, vous avez dit que si vous aviez été un libéral, on peut se demander, mais est-ce que Jean-Marc Hoffner n'est pas un libéral de gauche urbain pour lequel finalement le marché et les logiques d'adaptation des systèmes techniques à la demande font que il n'y a pas finalement autant de problèmes que ça dans les villes, malgré tout ce que raconte la littérature critique sur la catastrophe urbaine à venir? Qu'est-ce qui pose problème dans les villes?
Mais prenons ces deux exemples. Moi, je ne dis pas que le périurbain n'est pas un problème. Je dis qu'au contraire, le périurbain est un type de territoire qui a vocation à mieux fonctionner. Voilà. Donc, qui a d'abord vocation à être approprié par la pensée politique et technique, ce qui n'est pas le cas. Je pense que le périurbain peut fonctionner. Il peut beaucoup mieux fonctionner pour les gens qui y habitent. Crise des gilets jaunes, etc., même si c'est plus compliqué. Il peut mieux fonctionner par rapport aux questions environnementales, parce que pour le coup, il n'est pas forcément le plus vertueux aujourd'hui, mais il peut l'être demain. Il peut l'être demain parce que ce périurbain peut être un peu plus autonome, y compris en termes de relations domicile-travail. Il peut fabriquer un espace public qu'il n'a pas véritablement, qui ne sera pas un espace public dégradé de l'espace public urbain, qui sera autre chose. Mais il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Et pour le coup, non, le marché ne suffit pas à fabriquer un espace périurbain satisfaisant. Le pilotage, l'appropriation politique est très faible au plan national, puisque finalement, les politiques nationales, depuis 40 ans, voudraient le faire disparaître et considère qu'il ne doit pas exister, donc qu'il n'existe pas. Et au plan local, les gouvernances des intercommunalités concernées sont souvent assez faibles en termes d'expertise, en termes de projets, etc. Et les départements n'ont pas encore vraiment pris en charge l'affaire. Et au plan technique, l'expertise territoriale est peu présente. Les architectes, parce qu'il n'y a pas grand-chose à construire, ne sont pas très présents non plus. Et les opérateurs sont souvent considérés, les opérateurs qui sont sur le terrain du périurbain sont un peu souvent considérés comme le diable, quoi. Hein, c'est les géomètres experts, les lotisseurs et les enseignes de super ou d'hypermarché. Moi, je pense qu'effectivement, qu'il faut travailler avec ces gens-là, mais qu'il faut aussi et surtout considérer que le tiers des Français qui habitent dans le périurbain ont droit à plus de politiques publiques, plus d'expertise et plus de projets. Voilà. Donc, libéral, je ne sais pas, mais partisan d'une intervention publique sur le périurbain, oui. Et sur l'auto, c'est pareil. Si on ne fait rien, l'automobile restera individuelle, parcourant trop de kilomètres et continuant à produire un véhicule effectivement peu satisfaisant pour la collectivité. Et donc ce passage d'un système automobile individuel peu vertueux à un système automobile que j'appelais donc public et collectif, il demande beaucoup d'interventions. Sauf à penser, mais pour le coup, je ne pense pas que Google et Amazon et Tesla puissent nous régler tout ça. Et là, si vous permettez un dernier mot, il y a une vraie faille de gouvernance, comme disent les politistes, parce qu'on gouverne peut-être les transports collectifs, mais on ne gouverne absolument pas le système de mobilité. Et donc, là aussi, appel aux politiques pour que les systèmes de pilotage soient présents pour réintégrer dans la question des déplacements ce grand trou noir finalement d'une automobile, pour le coup laissé dans les déterminismes économiques et sociaux.
Alors, dernière question. On comprend à la lecture de votre livre que vous n'êtes pas un adepte des modèles urbains, que chaque situation nationale, territoriale doit inventer ses modalités de gouvernance et de conception des espaces. Et en même temps, on sent bien que sur des questions sur les mobilités ou sur la gouvernance du périurbain, pour ne parler que de deux exemples qui nous ont occupés aujourd'hui, certaines villes et certains pays s'en sortent un peu mieux que d'autres. Est-ce que vous avez une prédilection, une affection particulière pour la manière dont certaines villes sont aménagées, gouvernées?
Je pense qu'il y a une culture urbaine, à la fois technique et politique, dans beaucoup de pays d'Europe. Voilà. Alors, c'est l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les pays scandinaves. Je vais citer tous les pays d'Europe, l'Angleterre, alors qui sont des pays qui ont fait qui ont une histoire urbaine qui n'est pas celle de la France, qui n'a une histoire urbaine que très récente.
Et sur quoi l'Angleterre s'en sort mieux, par exemple, sur la capacité à créer du périurbain vivable?
Elle s'en sort mieux. Alors, je m'adresse à un spécialiste de l'Angleterre. Alors, je vais pas. Elle s'en sort mieux, me semble-t-il, quand même sur les questions de gouvernance, par exemple. Le maire du Grand Londres, c'est une invention que je trouve assez géniale pour le coup, et tout à fait adaptée en tout cas au fonctionnement métropolitain. Oui, les Anglais ont inventé beaucoup de choses, hein. Les cités-jardins, un rapport à la nature assez particulier, les frontages, comme disent les Québécois, c'est-à-dire tout cet espace qui est entre l'immeuble et la chaussée, où il se passe plein de choses intéressantes qu'on ne sait pas du tout faire en France. Oui, beaucoup de pays d'Europe me semblent intéressants, et je pense également que cette culture à la fois urbaine et politique, pour le coup, là, je fais référence à l'Allemagne, par exemple, on le trouve assez facilement. On trouve des techniciens qui sont assez politiques au sens stratège du terme, hein, et des politiques qui connaissent le sujet dont ils s'occupent, qui sont un peu aussi, de certaine manière, des techniciens. Et c'est un peu, si vous me le permettez, ce qu'on essaie de créer ou de recréer dans les agences d'urbanisme, avec un rapport élu technicien justement qui est relativement dégagé des questions hiérarchiques institutionnelles et qui permet de créer des démarches, des projets, des réflexions un peu originales de ce point de vue-là.
Ok. Merci beaucoup, Jean-Marc Hoffner.
Merci.
On n'a pas pu aborder la question du logement avec le dogme de l'accès à la propriété qui domine ces politiques depuis longtemps. On n'a pas abordé non plus la question de la proximité, cette valorisation très forte de la proximité, notamment municipale, opposée à l'hydre technocratique que serait la métropole. On n'a pas non plus abordé la question du dogme, du périmètre pertinent, justement, sur ces questions de gouvernance métropolitaine. Et enfin, nous n'avons pas abordé une question, alors, qui vous a sans doute valu beaucoup plus de remarques critiques, sur la place des architectes et des concepteurs dans la fabrique de la ville. Pour tous ceux que ça intéresse, eh bien, je les renvoie à la lecture de ce passionnant ouvrage, Anachronisme urbain, donc qui va devenir une lecture obligatoire, un must read, comme on dit, pour tous les étudiants en architecture, en urbanisme, mais aussi au-delà, en sciences politiques et en sociologie. Merci à vous. À bientôt pour une autre nouvelle séance des rencontres du Forum urbain. Je ne peux pas vous fixer de date, vous donner de date, puisque ces dates ne sont pas fixées, bien entendu, vu les circonstances actuelles, mais on espère vous y retrouver bientôt. Au revoir.
Au revoir à tout le monde, merci beaucoup. Merci à la librairie Mola.
Oui, bien sûr.
Où l'on peut trouver Anachronisme urbain, qui doit évidemment être acheté en priorité à la librairie Mola. Et voilà, alors je conseillerais aussi le livre, pas seulement parce que je l'ai écrit, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de références. Et je crois que, de ce point de vue-là, ça ne se veut pas seulement être un essai, c'est pas les opinions de Jean-Marc Hoffner, c'est... Je l'espère un peu plus que cela, et c'est aussi une façon d'aborder les questions urbaines, y compris pour l'honnête citoyen.
Merci Jean-Marc, et à bientôt.